bien. Nous allons commencer. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un très grand plaisir et un grand honneur d'accueillir ici pour une conférence Madame Renate Schlesier. Madame Schlesier est berlinoise et parisienne, si j'ose dire. Ses études, elle les a faites pour l'essentiel à Berlin, à la Freie Universität, mais elle a également étudié à l'Institut des Grecs à Paris-Sorbonne et elle a enseigné à l'École des hautes études en sciences sociales. Et nous nous sommes connus dans les couloirs de la Sorbonne, je crois, à l'école pratique. Ensuite, elle a fait sa carrière en Allemagne avec différentes étapes, à la fin Paderborn, où elle était professeure, et ensuite à Berlin depuis 2002, je crois, à la Freie Universität, où elle enseigne l'histoire des religions, ou Religionswissenschaft, sciences des religions, sciences religieuses, comme on dit en face, à l'école pratique. Parmi les œuvres de Madame Schlesier, il faut mentionner un volume qui nous a tous marqués, je traduis « Culte, mythe et savant », avec un jeu de mots qui rappelle à tout germanophone un des best-sellers de nos années d'écolier, l'anthropologie de l'Antiquité depuis 1800, paru en 1994. À côté des recherches historiographiques qu'elle a menées et qu'elle mène toujours, elle s'est intéressée au voyage, à la mobilité, dans un volume publié en 2004, plus récemment au théâtre et aux fêtes, colloque sous presse, et puis surtout, elle s'est intéressée aussi à Karl Kereny, auquel elle a consacré un colloque publié après des péripéties en 2006, et à ce personnage très important dans l'histoire des religions. Et enfin, je ne cite pas les nombreux articles, mais je veux juste dire qu'elle a voué beaucoup d'études à Dionysos, un dieu et une tradition qui l'occupera aujourd'hui à propos d'une question romaine de Plutarque, un auteur que les auditeurs de mon cours connaissent un peu, et elle s'occupe toujours de Dionysos puisqu'elle vient de m'apprendre que c'est ouvert le 5 octobre au musée antique de Berlin, dans la collection des sculptures d'époque romaine, une belle exposition très neuve sur Dionysos, dont elle est le commissaire. Et le volume qu'elle a inspiré, vous verrez que c'est tout à fait autre chose. C'est un autre Dionysos que celui que les historiens d'art allemands nous font connaître d'habitude. C'est un Dionysos qui respire, qui sent un peu l'Issarac et d'autres courants de l'histoire de l'art. Donc, je vous dis ça, 5 novembre jusqu'en août 2009.
Juin
2009. Donc, si vous allez à Berlin, allez voir ceci. Mais pour l'instant, on revient modestement à Plutarque et à la 36e question grecque. Et je me réjouis d'entendre parler de Dionysos et de son pied. Et pour que je n'oublie pas, je le sacrifie à un rite de la maison. Je donne à Renate Schlesier un médaillon au buste de Guillaume Budet qui est marqué de l'année et de son nom, où elle a parlé parmi vous.
Merci beaucoup.
C'est à ne pas perdre, c'est lui.
Très touchant.
Mais ça tiendra dans un sac d'armes.
Merci. Mesdames et messieurs, c'est un très grand honneur et un plaisir énorme pour moi de parler aujourd'hui dans cette salle où, quand j'étais étudiante, j'ai aussi parfois suivi des conférences de collègues très éminents et j'avais jamais pensé que moi-même je pourrais parler un jour dans cette salle. Donc, je suis touchée de l'invitation de mon ami, le professeur John Scheid, de m'avoir demandé de venir, de parler ici et de vous présenter quelques idées sur la 36e question grecque de Plutarque. Vous avez, j'espère, tous une page que j'ai fait distribuer. Là, vous avez le texte de Plutarque et vous avez aussi une traduction de cette 36e question que j'ai faite moi-même, tout en vous indiquant aussi à deux fois concernant le texte grec où il y a un problème textuel, il y en a plusieurs, mais le problème textuel dont je parle notamment concerne la transmission du terme duone ou bien tuone dans la chanson des femmes héléennes. Alors je commence. L'épiphanie, la faculté d'apparaître soudainement parmi les humains, est une caractéristique de toutes les divinités grecques. Mais c'est une des particularités de Dionysos que lui seul fut conçu comme le dieu qui arrive par excellence. Et il y a lieu d'ajouter que c'était surtout les femmes dont l'arrivée de Dionysos, implorée et représentée très souvent, fut un des ravissements préférés. Or, dans les œuvres de deux auteurs grecs anciens, cette arrivée du dieu est spécifiée par le renvoi à une partie de son corps, le pied, et chaque fois, il s'agit d'un datif instrumental. Dionysos s'est engagé à venir, et cela avec le pied, podi. Qu'est-ce que ça veut dire ? La démonstration suivante n'est rien d'autre qu'une tentative de répondre à cette question. L'un des deux témoignages se trouve au 5e Stasimon de l'Antigone de Sophocle. L'autre, auquel je me bornerai dans la suite, est dû à Plutarque. Au début de sa 36e question, il écrit, alors je vous lis peut-être le texte grec, « Diatiton Dionyson, haiton eleion gynaikes, hymnousai parakalousi, boeo podi, paragignestai pros autas, echeid houtos or hymnos. » Maintenant, on peut le prononcer de façon métrique. Différemment, je vais vous donner une des possibilités proposées par les savants. El tein hero dionys. Halion esnaon hagnon. Zyn charites si esnaon. To boeo podi duon. Ou tuon. Eta dis epaidusin axie taur. Alors, la traduction, vous l'avez sur votre feuille. Quand les femmes des Iléens implorent Dionysos par un hymne, pourquoi l'engagent-elles d'apparaître parmi elles avec un pied de bœuf ? Voici l'hymne. Viens, héros Dionysos, dans le temple au flux salé, le pur, en compagnie des charites dans le temple, avec un pied de bœuf t'enfonçant. Par la suite, elle chante deux fois, on pourrait aussi traduire, elles font entendre deux fois l'incantation, Epaidousi, digne taureau, digne taureau. Plutarque ne répond pas à la question qu'il pose, mais il ajoute comme substitut d'explication encore d'autres questions qui impliquent plusieurs possibilités d'interprétation au lieu de les formuler de façon univoque. Vous avez aussi la traduction du reste de la question grecque de Plutarque. Est-ce parce que certains appellent le dieu né d'une vache, bougonès, et taureau, tauros, ou bien parce qu'ils comprennent le pied de bœuf comme grand pied, mégas pouce, tel que le poète dit « sel aux yeux de vache »,« borupis » pour « sel aux grands yeux » et « megaloftalmos » et « fier comme un bœuf », »,« bougaios » pour « fanfaron » ou bien « vantard », »,« megalochos ». Ou bien est-ce plutôt parce que le pied de bœuf, « tou boos opus », est inoffensif, « a blabes », mais la partie cornue très nuisible, Epi Labès, qu'elle engage le dieu d'apparaître parmi elle en tant que doux, praos, et sans douleur, a lupos. Ou bien encore, puisque beaucoup de gens pensent que le dieu est devenu l'inventeur de la charrue et des semailles. Ainsi finit le texte. C'est donc à la désolation des historiens modernes de la religion, que Plutarque refuse non seulement de donner une réponse claire et distincte à sa question, mais qu'il omet carrément dans son traitement énigmatique de la question, hormis le pied de bœuf lui-même, qui reste mystérieux malgré une foule d'explications savantes allusives que vous avez entendues, tout le reste, il omet tout le reste de ce que l'hymne comporte encore. Une autre mention du chant des femmes héléennes chez Plutarque ne mène pas plus loin. Elle se trouve dans son étude sur Isis et Osiris, où il se borne dans le contexte de l'enterrement du taureau d'Apis, égyptien, au cours des mystères d'Osiris, à un résumé concentré dans une phrase. Je cite là seulement ma traduction. « Les femmes des Iléens invoquent Dionysos également et prient que, citation, le dieu vienne avec un pied de bœuf parmi elles. » Il est significatif que les deux passages chez Plutarque sont les seuls témoignages antiques, directs ou indirects, qui transmettent l'énoncé d'un hymne des femmes héléennes à Dionysos. Il n'est pas étonnant que ce témoignage, si isolé et étrange, est excité l'imagination et l'ambition explicative des interprètes modernes au plus haut point. On peut en effet constater que l'hymne des femmes héléennes est rarement passé sous silence dans les écrits des historiens de la religion grecque ou des philologues spécialistes de Dionysos. Permettez pas d'ajouter entre parenthèses que quand même, quelques-uns des plus éminents spécialistes de Dionysos, dont Jean-Pierre Vernon ou Burkert ou Dodds ou Rode ou Albert Hendricks à Harvard, en parlent très très brièvement seulement ou presque pas. Quant au texte cité par Plutarque, il n'a pas de doute qu'il obéit à des règles métriques, mais jusqu'ici les savants ne se sont pas mis d'accord sur la mesure exacte. S'agit-il d'anapeste, de vers éolien, d'ionien, de dactyle? Comme le chant se situe dans un rapport cultuel à Dionysos, sa désignation comme dithyrambe, c'est le chant cultuel de Dionysos par excellence, cette désignation comme dithyrambe ne semble pas faire problème. Mais déjà, sa datation est très controversée. Les diverses propositions chronologiques s'étendent de celles qui prétendent que le texte doit être considéré comme le plus ancien témoignage littéraire transmis de l'Antiquité grecque en entier, ou bien au moins le plus ancien chant cultuel, jusqu'à celle qui suppose que nous avons affaire, en revanche, à un document hellénistique, ou bien même contemporain de Plutarque, donc datant de l'époque impériale romaine. Il n'est pas non plus surprenant qu'une série de termes qui figurent dans ce texte aient provoqué les philologues, d'ailleurs selon une tendance très répandue dans la discipline, à soumettre la lettre à des changements textuels à l'aide de conjectures et de démandations. La répétition de la direction locale dans le temple, Esnaon, a parfois été l'objet d'une rature. Et la spécification du temple en tant que situé auprès de la mer, au flux salé, Halion, a été remplacée par une désignation ethnique, acoustiquement semblable, des Éléens à Léon. La conjecture provenant d'Arthur Cook, en revanche, alors lui, le savant britannique du début du XXe siècle, il a changé le texte et puis il a traduit comme ça, vient au cours du printemps au Dionysos, à la place de vient héros Dionysos. Cette proposition de Cook ne trouve presque plus d'adhérents, peut-être grâce au fait que l'interprétation de Dionysos comme démon de la végétation ou divinité du printemps, à la manière de l'école ritualiste Cambridge, n'est plus à la mode aujourd'hui. Toujours est-il que le héros Dionysos, héros Dionys, même s'il échappe à une conjecture, continue à produire l'irritation, d'autant plus que le vocatif héros est un hapax, et qu'un Dionysos héros, qualificatif explicite qu'on ne retrouve d'ailleurs nulle part ailleurs, serait en effet à peine réconciliable avec son statut divin. D'autre part, notamment dans les éditions plus récentes, la conjecture Aléon des Éléens à la place de Halion au flux salé a été défendue avec opiniâtreté. Toutefois, on n'a pas fait d'effort pour vérifier si un temple a été défini ailleurs, dans un texte littéraire grec ou même culturel grec, par son appartenance à une ethnie particulière. Si je ne me trompe pas, ce n'est effectivement jamais le cas. Dans les textes littéraires ou culturels, les temples sont généralement définis soit par leur appartenance à une divinité particulière, soit par leur situation topographique. Mais ceux pour lesquels un temple auprès de la mer que les femmes éléennes auraient pris en charge n'est pas digne de réflexion, doivent certainement opter pour cette conjecture ou une autre. Il faut admettre qu'un tel temple n'est pas attesté ailleurs, ni par la tradition écrite, ni jusqu'ici par les fouilles archéologiques. Or, la raison principale qui transmet à la conjecture une force convaincante semble consister dans le fait que sans ce changement de texte, on n'aurait pas pu arriver à faire coïncider l'énoncé de l'hymne, attesté seulement chez Plutarque, avec un autre témoignage. Cet autre témoignage se retrouve chez Pausanias, ou plus précisément, est reconstruit à partir des parties de son périégèse consacrées à la région d'Élide. Pour beaucoup d'interprètes, les indications de Pausanias livrent en effet le « missing link » à l'aide duquel l'hymne cité par Plutarque devrait être déchiffré. Car Pausanias souligne précisément que les Éléens vénèrent Dionysos plus que tous les autres dieux et prétendent qu'il leur rend visite à l'occasion de la fête des Tiaïs ou des Tiaïs, ça veut dire la fête des femmes en délire. Comme une épiphanie régulière de Dionysos au cours du cycle des festivités religieuses est mentionnée ici de façon explicite, certains savants ont été séduits par l'hypothèse que l'apparition du dieu dans la ville d'Élis ou bien dans ses alentours immédiats fut amenée justement par ce même hymne dont les termes sont témoignés par Plutarque dans ses questions grecques. Et ceci d'autant plus que le nom de la fête, qui renvoie aux Tiaï ou Tiades, donc à des femmes en extase culturelle dionysiaque, pourrait correspondre au participe délirant, tuon, qui, dans la transmission de l'hymne cité par Plutarque, semble désigner Dionysos. Un temple au bord de la mer ne pourrait certainement pas être réconcilié avec une telle interprétation identificatrice, car Pausanias situe le lieu de la fête des Tiaïs de façon très exacte, à une distance de 8 stades par rapport à la ville d'Élis, c'est-à-dire quelques kilomètres, 2 kilomètres. Mais le bord de la mer est beaucoup plus éloigné de cette ville, à savoir 120 stades, Ça veut dire à peu près 25 kilomètres. Il n'existe cependant aucune preuve de l'hypothèse selon laquelle les femmes éléennes auraient chanté l'hymne aux fêtes des Tiya en ce même endroit. L'hymne, comme je l'ai dit, n'est ni cité ni mentionné par Pausanias, ni du reste par toute la tradition grecque, hormis Plutarque. Et chez lui, Plutarque, en outre, un rôle, chez lui, Pausanias, en outre, un rôle éventuel des femmes au cours de cette fête est passé entièrement sous silence. À cette occasion, la fonction décisive revenait plutôt, selon le témoignage des informateurs de Pausanias, il était lui-même absent au moment de la fête, à des prêtres masculins qui célèbrent dans une maison non spécifiée, oikema, donc non pas dans un temple au sens strict du terme, un miracle du vin avec des chaudrons de bronze, lébétès, d'abord vides, et pas du tout avec des cruches ou des amphores, comme on a prétendu souvent. D'autre part, Pausanias souligne, non pas ici mais ailleurs, que dans le culte éléen de Dionysos, l'exercice de fonctions particulières revenait en effet à des femmes également. C'est grâce à lui que nous disposons d'informations précises sur un corps de 16 femmes auxquelles les Éléens confiaient des tâches spécifiques, non seulement dans le culte de Dionysos, mais aussi dans celui d'Héra d'Olympie. Dans le cadre du culte Poléade de Dionysos, de telles communautés de femmes, comme vous le savez peut-être, sont attestées ailleurs aussi. Le chiffre de leurs membres est désigné à chaque fois de façon précise, à savoir les 14 Gerarai à Athènes, qui gèrent le mariage de Dionysos avec la Basilina, la femme de l'archône Basileus, le principal fonctionnaire cultuel athénien, ou bien aussi les 11 Dionysiades de Sparte, qui pratiquent un concours de course et qui offrent, avec un autre corps de femme, des loikipides, des sacrifices à Dionysos, ainsi qu'à un héros qui lui est associé. Selon Pausanias, une des obligations des 16 femmes de l'Élide était d'établir deux chœurs, sans qu'il donne cependant des précisions sur la localité et le moment de leur exécution au cours du cycle annuel des fêtes religieuses. Chacun de ces deux chœurs est nommé d'après une héroïne, l'un d'après Hippodameia, fille d'Oinomaos et femme de Pélops, héros principal et culte, du culte fondateur des Jeux olympiques, et l'autre d'après Phiscoa, le nom peut-être veut dire celle au ventre gras, une maîtresse de Dionysos qui existe seulement dans la région de l'Élide, devenue par lui, par Dionysos, la mère d'un fils, Narcaios, et issue du lieu-dit Ortia, un lieu situé dans la contrée plate au bord de la mer de la région d'Élide. Dans ce contexte, Pausanias documente la tradition des Éléens qui prétend, de façon insolite d'ailleurs, que cette Phiscoa et son fils étaient effectivement les premiers à vénérer Dionysos par des honneurs divins. De surcroît, Pausanias rapporte au sujet de Phiscoa, de façon remarquablement discrète, qu'elle recevait encore d'autres honneurs, guerra alla, en dehors du chœur établi par le groupe des 16 femmes. Cette façon de parler, autre honneur, renvoie sans doute de manière euphémique, comme généralement chez Pausanias, à des pratiques du culte des morts ou des héros. Le chœur nommé d'après Phiscoa et installé par les 16 femmes a été utilisé par certains interprètes également, comme on peut s'attendre, pour expliquer la fonction de l'hymne mentionné par Plutarque. L'hypothèse prétendant que cet hymne reproduit exactement l'énoncé chanté par ce chœur pour Phiscoa est pourtant peu probable. Car si ce chœur pour Phiscoa porte son nom, c'est plutôt elle, la maîtresse de Dionysos et mère de son fils, qui doit en être la destinataire et non pas le dieu Dionysos lui-même. Et ceci semble d'autant plus vraisemblable que Pausanias formule un parallèle explicite entre le cœur qui lui est destiné et les autres honneurs qu'elle reçoit. Même indépendamment du cœur dédié à Phiscoa, la plupart des interprètes déclarent l'identité des femmes héléennes chez Plutarque qui chantent l'hymne à Dionysos et des 16 femmes dont les différentes obligations sont décrites par Pausanias. Mais moi je pense qu'une telle identification ne se laisse pas maintenir, non seulement parce que Pausanias ne souffle mot sur l'hymne à Dionysos des femmes héléennes. Plutarque, quant à lui, ne désigne pas le groupe des 16 femmes comme chanteuses de l'hymne, mais les femmes des Héléens, Gunaïques et Léon, sans autre précision. Or, le terme « les 16 femmes », spécifique de la région d'Élide, ne lui était pas du tout inconnu à Plutarque, ce que prouve un autre passage, le récit d'une supplication cultuelle et consolation politique que les 16 femmes ont accompli dans le cadre de leurs fonctions officielles. On ne peut guère admettre que Plutarque, qui se montre généralement très consciencieux en ce qui concerne l'utilisation de termes cultuels, n'aurait pas employé ce terme technique dans sa question grecque si c'était réellement les 16 femmes qui chantent l'hymne à Dionysos. Et il aurait encore moins manqué d'utiliser la terminologie religieuse correcte dans le passage faisant allusion à cet hymne et figurant dans son étude sur Isis et Osiris, dont la destinataire, comme vous le savez, fut la vénérable prêtresse Cléa, la présidente des Thyades de Delphes, si cette terminologie était justifiée dans ce cas. En regardant le texte de la Périégèse de Pausanias de plus près, on constate que cet auteur également sait fort bien distinguer entre les femmes héléennes dans leur totalité et le groupe des 16. Celles-ci, selon Pausanias, furent choisies par les 16 villes de la région de l'Élide d'après les critères suivants. Elles étaient les plus âgées et se distinguaient des autres femmes aussi par leur position particulièrement vénérable, tout comme par leur très grand prestige public. Il est peu probable que ces femmes en personne aient fait partie des chœurs installés par elles, qu'elles les aient chantées et dansées elles-mêmes, les plus vieilles femmes, et encore moins que l'exécution de ces chœurs était assurée uniquement par les plus vieilles femmes de l'Élide. Au lieu d'être les choreutes, elles étaient plutôt les chorèges. Pausanias souligne lui-même que notamment au culte d'Héra à Olympie, une fonction centrale leur était confiée. Dans ce contexte, leur obligation consistait dans l'organisation d'un concours au stade d'Olympie de courses de jeunes filles distribuées sur 3 classes d'âge. Et un seul devoir particulièrement solennel leur fut accordé à l'occasion de la fête panthétérique d'Héra, alors tous les 4 ans, elle tissait le peplos, le vêtement de la déesse, et pour cette tâche, elle disposait même sur l'agora d'Olympie d'une maison spécifique, oikema, qui leur était réservée. Pausanias emploie à son tour, comme Plutarque, en dehors de la désignation terminologique « les 16 femmes », l'expression « les femmes héléennes » ou bien « les femmes des Héléens » également. Mais il faut se demander si ces deux dénominations sont effectivement utilisées de façon identique, ce qui par ailleurs est une évidence pour beaucoup d'interprètes. Car les femmes héléennes, selon Pausanias, sont autorisées à pénétrer dans l'Hippodamion, le sanctuaire de l'héroïne Hippodameia à Olympie, une fois par an, à lui offrir des sacrifices et à accomplir d'autres actions en son honneur, le même terme que nous avons déjà rencontré. Et puis, par rapport au héros Achille, les femmes, donc manifestement, ici aussi, à la différence des hommes, jouissent de privilèges semblables. Au début des Jeux sacrés à Olympie, elles accomplissent près du tombeau vide d'Achille, dans la ville d'Élis, je cite, « d'autres actions en son honneur, Et cette fois-ci, Pausanias précise qu'elle lui adresse des lamentations, littéralement, elle a la coutume de le plaindre, Achille, en se battant elle-même. Chez Pausanias, il ne se trouve aucun indice signalant que ses actions étaient réservées en tant que fonction officielle au groupe des 16. Son choix de mots suggère, en revanche, que toutes les femmes mariées, gynaïques des Éléens, indépendamment de leur appartenance à des classes d'âge ou à des couches sociales spécifiques, pouvaient participer au culte de héros à Olympie pour l'héroïne Hippodameia, chaque année, et à Élis, dans la ville d'Élis, pour Achille, tous les 4 ans, et précisément pas seulement le groupe des 16, qui, selon le nombre de ses membres et les critères d'adhésion, fut strictement réduit. De surcroît, Pausanias ne dit pas que ces deux cultes de héros réservés aux femmes étaient soumis à une administration ou à une organisation réglée, bien loin de dire que le groupe des 16 s'occupait d'une telle chose, et il ne mentionne pas non plus des chœurs créés pour ces occasions. Notamment dans le cas du culte d'Achille, Pausanias souligne plutôt sa forme inarticulée du fait des gestes extatiques de la plainte, ce qui ne serait guère compatible avec un chant de chœur articulé. Face à cette différenciation si consistante entre le groupe des 16 d'un côté et les femmes éléennes de l'autre, en général, il y a lieu de supposer que le contemporain plus âgé de Pausanias, Plutarque, lui aussi, s'est délibérément servi de cette différenciation quand il dit que les femmes des Éléens, et donc pas seulement le groupe des 16, chantaient en l'honneur de Dionysos l'hymne cité par lui. Or, l'adresse de cet hymne déjà, Héro Dionysos, met en évidence que cet hymne également fait partie d'un culte de héros, tout comme la vénération d'Hippodameia, de Phiscoa et d'Achille par les femmes iléennes en général mentionnées par Pausanias. On ne pourra pas et on ne devra pas exclure que l'installation d'un chœur pour ce héros a pu appartenir aux obligations des 16 par analogie au chœur dédié à Hippodameia et celui pour Phiscoa. Mais il faut se tenir au fait, je crois, que ni Pausanias ni Plutarque ne comptent l'établissement d'un chœur dédié à Dionysos parmi les devoirs du groupe des 16. Les cultes éléens en l'honneur des héroïnes Hippodameia et Phiscoa et du héros Achille, dont nous ne sommes informés que par Pausanias, et le culte éléen du héros Dionysos, dont nous sommes informés uniquement par Plutarque, sont donc munis de différences ainsi que de similitudes remarquables. Ce qui est commun au culte d'Hippodameia, de Phiscoa et d'Achille, c'est que ces héroïnes et ce héros reçoivent, hormis d'autres services mentionnés par Pausanias, des rites en rapport avec la mort, d'autres honneurs également, que le Périégète se refuse de spécifier. Le Dionysos éléen a-t-il reçu un culte de héros analogue ? Ceci ne se laisse pas déduire directement des informations de notre seul témoin Plutarque. Toutefois, le contexte immédiat de son témoignage de l'hymne éléen à Dionysos dans le cadre de son œuvre sur Isis et Osiris justifie peut-être une telle hypothèse, car les démembrements, les ranimations et les résurrections d'Osiris n'y sont pas seulement mis en relation avec l'hymne cultuel des femmes éléennes, mais aussi avec Dionysos, né d'une vache, Bouguenès, que les Argiens rappellent de la profondeur de l'eau, ainsi qu'avec le Dionysos de Delphes, qui est, comme vous le savez, enterré près du sanctuaire oraculaire, donc un dieu mortel. D'après le témoignage de Pausanias, les cultes destinés à Hippodameia et à Phiscoa se distinguent de celui destiné à Achille de façon décisive. C'est seulement à Achille que des plaintes extatiques sont vouées, et non pas aux deux femmes. Et ce ne sont que ces deux héroïnes qui reçoivent chacune un cœur. Pausanias ne néglige pas de souligner explicitement la haute position de ces femmes de leur vivant, L'une, autant que l'autre, est marquée d'excellence par son partenaire masculin, Hippodameia par Pélops, héros éponyme du Péloponnèse, Phiscoa par Dionysos, et toutes les deux ont accompli le cycle vital féminin de manière exorbitante en devenant épouse ou mère de héros ou de dieux. Il y a lieu de supposer que l'énoncé des chants de cœur qui leur étaient voués se rapportait à ce destin prestigieux. La lamentation extatique en l'honneur d'Achille, en revanche, ne semble se référer qu'à sa mort tragique. Or, une telle plainte est entièrement absente, vous avez remarqué, de l'hymne à Dionysos. Néanmoins, il n'est pas exclu que les destins de Dionysos y figurent de façon allusive, ce qui sera traité ultérieurement. Quant au site des cultes funéraires consacrés à Achille et à Hippodameia, on remarquera que Pausanias situe leur topographie de manière très exacte. Hippodameia reçoit le culte dans son sanctuaire à la ville d'Olympie, au Hippodamion, une grande place entourée d'un mur de pierre, localisée dans l'Altis, le bois sacré de Zeus, tout près de l'entrée des locaux festifs. Et Achille est vénéré près de son tombeau vide, érigé dans la ville d'Élis, au seuil qui sépare le gymnase et l'agora. Il est d'autant plus remarquable que Pausanias ne dise pas un mot sur le site du culte funéraire dédié à l'héroïne, à l'héroïne Phiscoa, et rien non plus sur l'endroit ou bien les endroits où les chœurs en l'honneur d'Hippodameia et de Phiscoa ont été exécutés. Dans le cas d'Hippodameia, on pourrait formuler l'hypothèse que cette grande héroïne d'Olympie n'y recevait pas seulement son culte funéraire, localisé de façon précise, mais il était vénéré peut-être aussi par le chœur qui lui fut destiné. Quant à Phiscoa, il serait possible que la mention de son lieu d'origine, Ortia, dans la plaine Iléenne, au bord de la mer, par Pausanias, nous autorise d'en déduire que cet endroit correspond aussi au site où son culte funéraire ainsi que son chœur avaient lieu. Toutefois, nous n'avons aucune preuve à notre disposition. Et le manque de précision dans cette occurrence est peut-être un signal par lequel Pausanias avertit ses lecteurs de ne pas rechercher une localisation exacte puisqu'il s'agit éventuellement de rites secrets réservés aux femmes. Tenant compte de tout cela, la détermination topographique formulée dans l'hymne éléen à Dionysos est d'autant plus significative, car elle ne peut être considérée ni comme précise, ni comme non précise. Elle est précise et pas précise à la fois. L'endroit où l'action évoquée par l'hymne se déroule donc dans le temple près de la mer, quelque part alors sur la côte ouest du Péloponnèse au pays des Éléens. C'est tout ce que l'hymne dit sur le site du temple. Aucun nom topographique ne vient en aide. Et jusqu'ici, les fouilles archéologiques sur lesquelles on pourrait s'appuyer font défaut également. Il faut dire dans ce contexte que la côte ouest du Péloponnèse, dans la région de l'Élide, a subi depuis l'Antiquité beaucoup de changements, notamment à cause des beaucoup de lagunes, supplémentaires se sont formées, donc c'est très difficile de fouiller là, et c'est peut-être une des raisons pour que les archéologues ont renoncé jusqu'ici de faire plus de fouilles. Alors l'indication de l'hymne, je continue, aussi inexacte qu'elle soit, contient malgré tout une détermination précise ex negativo, car elle exclut un emplacement du temple dans la ville d'Élis, ou bien tout près d'elle. Toutefois, comme j'ai dit, on cherche en vain, dans la description d'Élide par Pausanias, un temple de Dionysos au bord de la mer. Il n'a pas visité la mer, il le dit explicitement. Pourtant, une autre tradition vient peut-être à l'appui. Le seul indice d'une éventuelle vénération de Dionysos dans la région ilienne, au bord de la mer, se trouve dans le premier hymne homérique à Dionysos, où plusieurs localisations concurrentes de la naissance de Dionysos sont mentionnées, et où, là je fais une paraphrase, le tourbillon profond de l'embouchure du fleuve Alphée figure parmi les sites revendiqués pour cet événement, la naissance de Dionysos. Mais même si un temple de Dionysos s'y trouvait réellement, il n'existe en tout cas aucune évidence justifiant l'hypothèse que c'était là l'endroit où l'exécution de l'hymne des femmes iléennes. Avant de regarder maintenant cet hymne à Dionysos cité par Plutarque de plus près, alors deux tiers de ma conférence sont déjà passés, alors avant de regarder maintenant cet hymne à Dionysos cité par Plutarque de plus près, on pourra d'abord retenir les premiers résultats provisoires de l'enquête critique que j'ai menée jusqu'ici. Avant, je bois peut-être une bouchée d'eau et puis je vous donne en quelques points les points principaux du résumé. Premièrement, la déclaration de Plutarque que les femmes iléennes chantent cet hymne est à prendre à la lettre. L'opinion commune qui prétend que les chanteuses correspondent au corps des 16 femmes de l'Élide s'avère intenable. Deuxième résultat, l'indication topographique de l'hymne « Temple auprès de la mer » donne le sens littéral. La conjecture « Temple des Iléens » n'est pas justifiée. Troisième résultat, à l'aide des descriptions du culte de Dionysos en Élide par Pausanias, il est impossible de localiser l'hymne par rapport au temps ou bien à l'espace réservé à son exécution. À la base du texte de l'hymne cité par Plutarque et contre l'opinion commune des savants, il faudra exclure que l'hymne fût exécuté dans la ville d'Élis ou tout près d'elle. Quatrième résultat, la déclaration de Plutarque semble impliquer que les femmes iléennes venaient de toutes les parties de la région vers ce temple auprès de la mer pour chanter leur hymne à Dionysos. Ce serait en correspondance avec la mobilité culturelle particulièrement marquée des femmes iléennes que Pausanias note à plusieurs reprises. À Olympie, ainsi que dans la ville d'Élis, très éloignée de la ville d'Olympie, et sur le chemin entre ces deux villes également, leur office consistait dans l'exécution d'une multitude de rites. Cinquième résultat, les activités des femmes iléennes dans le cadre du culte des dieux se concentrent, selon Pausanias, sur deux divinités, Héra et Dionysos. Quant à Héra, sa vénération par les femmes se borne à la ville d'Olympie, mais quant à Dionysos, une telle vénération reste généralement sans détermination topographique exacte, même si l'on tient compte de la seule indication un peu plus précise, temple auprès de la mer, dont Plutarque est l'unique témoin. Sixième résultat, outre ces rites concernant le culte de divinité, mais pas sans rapport avec eux, les femmes iléennes avaient des fonctions cultuelles importantes dans le cadre du culte des héros également. Il s'agit de héros dont la vénération fut une particularité iléenne. La vénération iléenne des héros implique d'abord le culte d'Hippodameia, associé à la déesse Héra d'Olympie, ainsi que le culte Phiscoa, une héroïne associée à Dionysos. La localisation du culte de cette dernière est encore moins précise que celui de son amant divin. Les cultes des deux héros masculins, Achille et Dionysos, en revanche, sont différenciés et localisés de façon relativement claire. Selon Pausanias, Achille est vénéré par des lamentations rituelles auprès de son tombeau vide dans la ville d'Élis, et selon Plutarque, Dionysos est vénéré par un hymne et appelé à paraître dans son temple maritime. Maintenant, alors, on se concentre un peu plus sur le texte de l'hymne et son contexte immédiat. Le temple mentionné dans l'hymne dispose donc d'un site remarquablement excentrique. Or, l'hymne ne permet pas seulement de déduire une mobilité cultuelle supplémentaire des femmes héléennes liées au culte de Dionysos, en dehors de celles qui leur étaient confiées, selon Pausanias, dans le cadre du culte de la déesse Héra et de celui des héros Hippodaméia, Phiscoa et Achille. Car l'hymne contient en plus une indication qui pourrait éclairer la relation entre le temple de Dionysos, situé dans une position maritime et donc excentrique, et des différents sanctuaires urbains à Olympie, ainsi qu'à la ville d'Ilis et ou à ses alentours. Dionysos doit venir, selon l'hymne, vous avez vu, sun charitesi, en compagnie des charites. Ce détail a encouragé beaucoup d'interprètes à utiliser le texte Pausanias pour localiser l'endroit de l'exécution de l'hymne cité par Plutarque et sa position dans le cycle des fêtes religieuses, précisément dans la ville d'Élis ou dans ses alentours. Mais la ville d'Olympie s'y prêterait aussi. Selon Pausanias, le lien cultuel entre Dionysos et les charites est en effet particulièrement étroit à Olympie, car ces divinités y disposent en commun d'un autel situé directement à côté du sanctuaire de Pélops, donc jouissant d'une position très centrale. Dans la ville d'Élis, d'autre part, il existe à côté du sanctuaire des charites, situé là, sur l'agora, un temple Naos du Silène. Et Pausanias souligne le fait, étrange selon lui, que le Silène n'est pas vénéré en compagnie de Dionysos, comme d'habitude, tout en insistant dans ce contexte sans commentaire sur le fait que les Silènes sont des mortels, donc n'ont pas d'habitude des temples. Or, il est remarquable que le Silène mortel dispose à la ville d'Élis d'un temple, comme ne l'ont d'habitude que les dieux, mais comme le héros Dionysos de l'hymne héléen l'a également, ce qui a cependant passé inaperçu jusqu'ici. Les commentateurs de l'hymne ont été tentés plutôt d'utiliser les informations de Pausanias au sujet de la communauté cultuelle de Dionysos et des charites chez les Héléens pour rattacher le site éventuel de l'exécution de l'hymne au sanctuaire correspondant. Ce qui en découle, toutefois, est une difficulté insurmontable, car aucune preuve ne vient à l'appui, ni pour l'hypothèse que l'hymne fut exécuté seulement au sanctuaire commun des charites et de Dionysos à Olympie, ni pour l'hypothèse que cette exécution a eu lieu aussi, ou bien seulement, au sanctuaire des charites dans la ville d'Élis. Face à ces hypothèses, il est d'autant plus remarquable que Pausanias, quant à lui, passe l'hymne des femmes héléennes et l'appelle à Dionysos qui y figure, à savoir de venir avec les charites entièrement, sous silence. Mais indépendamment du silence de Pausanias par rapport à cet hymne, une exécution de l'hymne dans les villes d'Olympie ou d'Élis est en fait, je pense, invraisemblable, au moins si l'on respecte l'énoncé du texte cité par Plutarque. Les indications de Pausanias quant à la liaison étroite chez les Héléens entre les charites et Dionysos, ou bien une figure masculine et mortelle de Sentias, le Silène, pourraient cependant ouvrir la voie, je pense, à la compréhension de l'hymne et de sa fonction politico-cultuelle, mais différemment de ce que les commentateurs ont tenté jusqu'ici. Car cette liaison étroite entre Dionysos et les charites est en effet supposé par l'hymne également. Mais étant donné qu'une identité topographique des sanctuaires à l'intérieur du pays et du temple mentionné dans l'hymne est exclue sur la base du témoignage textuel chez Plutarque, l'hypothèse que les sanctuaires des charites et de Dionysos, ou bien celui du Silène, dans les centres urbains, d'Olympie et d'Élis, ont été mises en relation, peut-être, avec un temple maritime de Dionysos par des actes cultuels. Je pense que ça s'impose, par exemple, par une procession de plusieurs jours, en tout cas par des voyages motivés par le culte. Une liaison cultuelle comparable entre le centre et la périphérie est attestée ailleurs en plusieurs endroits. Il suffit de renvoyer ici à la constellation cultuelle dans une autre région du Péloponnèse, à savoir la contrée qui enferme la ville d'Argos et le sanctuaire argien d'Héra à la campagne, dont les rites de connexion entre ces deux sites ont été bien étudiés déjà, notamment par François de Polignac. Une liaison rituelle semblable entre un culte urbain et un culte rural pourrait être déduite des indications de Pausanias concernant le culte éléen de Dionysos, en les mettant en rapport avec l'hymne à Dionysos transmis par Plutarque, mais d'une autre manière que celle adoptée d'habitude par l'opinion commune des savants. L'épiphanie de Dionysos, décrite par Pausanias comme une manifestation du dieu par un miracle du vin, célébré à l'occasion de la fête des Tia par des prêtres masculins, hiereis, dans une maison communale, oikema, près de la ville d'Élis, n'est évidemment pas la même chose que l'épiphanie du dieu dans son temple maritime, dont les femmes invoquent l'apparition sous forme, non pas de vin, mais de taureau. Toutefois, ce sont justement les différences de ces deux épiphanies qui permettent de les mettre en rapport, suggérant la pratique cultuelle suivante. Au bâtiment simple, oikema, près de la ville, correspond le temple, Naos, sûrement plus impressionnant, au bord de la mer. L'épiphanie de Dionysos avec le pied de bœuf, ici, correspond à son épiphanie sous forme de vin, là-bas. La réduction des agents cultuels aux petits groupes d'hommes aux fonctions religieuses officielles, prêtres, tout près de la ville, correspond à la réservation des rites à l'appartenance au genre féminin, ainsi qu'à l'élargissement du groupe des personnes admises à la collectivité des femmes éléennes sans limitation quantitative ou spécification de fonctions religieuses. De même, c'est comme si les deux paysages différents étaient mis en relation par le culte sans perdre leur particularité. Le miracle du vin que les prêtres masculins prennent en charge se déroule dans l'ambiance rurale près de la ville d'Élis, donc dans le cadre d'un paysage où les prés fertiles et les pâturages de la plaine éléenne font place à des collines couvertes de vignobles. L'épiphanie du dieu bovin parmi les femmes éléennes, en revanche, est invoquée auprès de la mer, ou bien comme une sortie de la mer, dans le cadre du paysage humide traversé par des lagunes qui dominent toute la côte de l'Élide et où l'on pratiquait une économie agraire de toute ancienneté, extrêmement productive, avec d'énormes troupeaux de bœufs, de taureaux et de vaches. Alors, voilà, il faut voyager, il faut regarder. Moi, je l'ai fait, bien sûr, alors on voit très bien la différence énorme entre ces deux paysages. Au cas où la lecture tuone, délirant, du texte de l'hymne pouvait s'appuyer sur des manuscrits, alors il semble avoir deux sortes de manuscrits, l'un avec tuone, l'autre avec duone. Alors, au cas où la lecture tuone, délirant, du texte de l'hymne pouvait s'appuyer sur les manuscrits, il ne s'agirait en plus, dans les deux cas cultuels, d'une expérience religieuse extatique. Comme le nom de la fête urbaine des Tia se réfère à l'extase dionysiaque, l'épiphanie de Dionysos dans son temple maritime serait, dans ce cas, spécifiée par la même famille linguistique, l'emploi du verbe tuein, être en délire. À cette condition, on pourrait supposer que les femmes qui vénèrent Dionysos y sont elles-mêmes en délire, ne lui rendent donc pas seulement hommage par un hymne chanté, mais aussi par des danses turbulentes et qu'elles le joignent en devenant des tiades ou bien des tiailles donc une catégorie de ménades correspondant à Dionysos dans sa qualité de dieu délirant. Toutefois, le nom du moi, Thuyos, que l'on rencontre en Élide, mais aussi bien ailleurs en Grèce, et qui correspond au mois de mai, permet peut-être de délimiter la position de la fête dans le cycle annuel, et donc pendant la période du début de l'été méditerranéen. Mais quelles seraient les conséquences de l'autre lecture, Duone, s'enfonçant, plongeant? La relation entre l'hymne cultuel des femmes iléennes et les remarques de Pausanias au sujet du culte de Dionysos en Élide serait encore plus complexe. La plongée du héros Dionysos avec le pied de bœuf dans le temple au flux salé ferait ressortir, au niveau de la langue et du sens, un rapport rarement aperçu avec le passage de l'Iliade d'Homère où le nom de Dionysos est attesté pour la première fois. C'est au chant 6 de l'Iliade. Là, le dieu en extase, Mainomenos, je cite, plonge sous la vague du flux salé, buzet halos katakuma, et cherche un abri près du sein de la déesse Thétis, la mère d'Achille, après avoir été offensée en compagnie de ses nourrices qui portent des bâtons rituels, des tuslas, par Lycurgue, qui le frappe avec un fouet de bouvier, bouplex. L'hymne des femmes iléennes renferme en effet une série d'éléments qui se trouvent aussi dans le passage homérique, dans l'Iliade, chant 6, qui, malgré des interprétations multiples, n'en est pas devenu moins énigmatique. La relation particulière des femmes à Dionysos, l'association du dieu à un bœuf au moyen d'un objet ou d'un membre bovin, à chaque fois employé au datif instrumental, et en outre la mer et une plongée. Or, l'hymne ne contient aucune référence à une intervention quelconque d'une personne masculine. Si la lecture d'Huon plongeant était réellement justifiée, le texte de l'hymne serait dépourvu de l'extase du dieu également. Ce que le passage homérique et l'hymne cultuel des femmes iléennes ont effectivement en commun, c'est qu'une des qualités traditionnellement les plus importantes de Dionysos, son caractère de divinité du vin, reste inexprimé dans l'un comme dans l'autre texte. Le passage homérique pourrait cependant venir en aide à la compréhension de la signification de l'hymne iléen, car ce dernier également témoigne d'une catabase du dieu qui implique un rapport à la mort et à la mortalité. La question s'impose de savoir si l'exécution cultuelle de l'hymne dans le temple maritime de Dionysos, Éléen, se rapportait aussi à la mortalité du dieu, et encore si l'invocation du dieu en tant que héros s'y réfère. Or même, à l'aide du passage homérique, on n'arrive pas à une réponse claire à ces questions. Toutefois, le contexte dans lequel Plutarque cite une version abrégée de cet hymne dans son œuvre sur Isis et Osiris mène peut-être dans cette direction. D'autre part, l'exécution de l'hymne ne fut pas forcément une action isolée. Les deux actions rituelles principales du culte iléen de Dionysos, celle des prêtres masculins et celle des femmes, auraient pu se dérouler simultanément et même au cours de la même fête, les Thia, non pas comme on le suppose d'habitude dans le même site, mais plutôt en deux endroits différents et très éloignés l'un de l'autre. Une telle simultanéité d'actions cultuelles en rapport entre elles est pratiquée l'une par des hommes, l'autre par des femmes, en deux endroits séparés, est en effet attestée ailleurs pour le culte de Dionysos également, à savoir celui de Delphes. C'est Plutarque qui en donne le récit, et ceci dans le même contexte dans lequel il se réfère d'abord brièvement à l'hymne des femmes iléennes. À Delphes, écrit-il, des prêtres consacrés par leur pureté, hosioi, accomplissent à l'intérieur du temple d'Apollon des sacrifices secrets près du tombeau de Dionysos, au moment même où les adoratrices délirantes de Dionysos, les Thyades, dans les montagnes près de Delphes, réveille Dionysos, enfant, dans son berceau. Pour la compréhension de l'hymne Éléen à Dionysos, cette indication de Plutarque est instructive, notamment par les éléments qui la distinguent de l'énoncé de l'hymne. Tandis que dans le culte de Delphes, les hommes exécutent leur rite dans le sanctuaire principal de la ville, le temple d'Apollon. Les activités religieuses masculines du culte éléen, en revanche, se déroulent en un endroit de la périphérie urbaine et dans une simple maison, et non pas dans un temple. Dans le culte éléen, le temple est réservé aux femmes, mais il est marqué par une position d'extrême périphérie, le paysage humide d'une région spécifiée par des lagunes, des embouchures de fleuves, des prés fertiles et la mer, peut-être aussi près de collines et de sources. Ici, c'est le temple qui est déclaré rituellement pur, agnos, et non pas les femmes elles-mêmes pendant l'exercice du culte, tandis qu'à Delphes, ce sont les pratiquants mâles du culte auxquels le terme technique hosioi confère une autre forme de pureté et de sainteté. Et surtout, l'hymne éléen ne dit rien sur la mort de Dionysos, mais souligne plutôt son statut spécifique de héros qui implique, il est vrai, la mortalité, mais qui suppose notamment les honneurs divins et plus particulièrement la force vitale de Dionysos. Ici, le dieu n'est pas conçu comme un enfant au berceau, mais comme un mâle adulte. Il apparaît triomphalement sur le sable de la côte maritime, comme le Dionysos adolescent de l'hymne homérique. Or, le dieu n'est pas invoqué sous forme humaine, mais sous forme de l'animal qui incarne pour les Grecs la vigueur, la férocité et la puissance sexuelle mâle au plus haut degré, le taureau. L'hymne culmine dans l'invocation « digne taureau », répété deux fois comme une formule magique. Mais pour finir, alors j'ai presque fini, qu'est-ce qu'il en est du pied qui doit, selon le désir explicite des femmes éléennes, accompagner l'apparition du dieu? Il est étonnant que la grande majorité des interprètes supposent, à la différence de Plutarque, que l'épiphanie demandée de Dionysos devrait se dérouler avec le pied de taureau. Or, cette traduction correspond à une interprétation bizarre ou bien à un malentendu de l'énoncé grec. Le texte dit « to baeo podi » avec un pied de bœuf. On ne peut nullement inférer, sans équivoque, qu'il s'agit d'un pied de taureau. Dans l'emploi du grec ancien, l'adjectif « baeos » désigne généralement une référence à l'espèce bovine et particulièrement au bœuf ou bien utilisé au féminin à la vache. Si le but de l'hymne avait été d'exprimer sans équivoque l'appartenance du pied à un taureau, un autre adjectif aurait été disponible, taureios, qui est attesté depuis l'époque classique. Mais c'est justement la qualité généralisante de l'adjectif, sa non-précision, qui est significative. La désignation du pied avec lequel Dionysos est prié d'apparaître se réfère clairement au statut problématique de son sexe. Le pied désigné comme boéos peut s'appliquer lexicalement à un pied de taureau également, il est vrai, tout comme à celui d'une vache ou d'un bœuf. L'explication de Plutarque, que je vous ai traduit dans la 36e question grecque, souligne cependant, sans équivoque, que lui au moins l'entend comme un pied de bœuf, tu boos ho pous, et non pas comme un pied de taureau, non pas comme un pied de vache aussi. Sa déclaration que le pied de bœuf est incapable de faire mal à Blabès et que, grâce à lui, l'épiphanie du dieu serait douce, praos, et sans peine, à lupos, permet d'autant plus de supposer que le pied de bœuf renvoie ici comme métonymie à autre chose. Par conséquent, l'énoncé de l'hymne semble contenir une allusion à la possibilité de la castration de Dionysos. Ce n'est pas seulement l'expression « pied de bœuf » qui fait ressortir l'importance des allusions sexuelles dans l'énoncé de cet hymne. Notamment le vocatif « taur »,« ô taureau », qui le termine, impose une telle lecture. Il n'est pas nécessaire de s'appuyer sur des informations tardives, comme celle de Pollux ou le lexique de Suidas, où le mot « tauros » est donné comme synonyme des organes génitaux masculins et même féminins. Échille et Aristophane, déjà, emploient le mot au sens sexuel, d'ailleurs sans lui donner une spécification religieuse. Dans l'Agamemnon d'Échille, la Vierge Iphigénie est appelée avec l'alpha primativum A taurotos, puisqu'elle n'a jamais couché avec un homme. Et dans l'Isistrate d'Aristophane, les femmes athéniennes doivent prononcer le serment que chacune d'entre elles, jusqu'à nouvel ordre, doit rester chaste, a taurote, et se refuse à son mari. Le texte de l'hymne des femmes héléennes, en revanche, suggère l'invocation d'un partenaire sexuel mâle. En fin de compte, celui-ci ne devra être personne d'autre que le taureau adulte Dionysos lui-même, non pas en tant que bœuf, mais tel qu'il se présentera dignement après sa restitution. Ce tauros surhumain, animal et héros, donc soumis à la mortalité et dieu immortel en même temps, ne devra cependant pas apparaître parmi elles dans sa férocité inadoucie. Il doit venir avec les charites, donc en compagnie des déesses qui sont plus particulièrement associées à Aphrodite, car ce sont elles qui munissent de douceur, de largesse et d'un savoir-vivre agréable la violente déesse de l'amour. Et ce ne sont pas les femmes qui se présentent à cette occasion comme pures selon les règles cultuelles, mais uniquement le temple, à la différence des vieilles femmes d'Athènes, les Gerarai qui préparent le mariage de Dionysos avec la Basilina dans le Boukoleion, littéralement les tables de bœuf, car ces dignes vieilles à Athènes doivent jurer d'être Hagnai, et cela, là, signifie explicitement d'être sexuellement pur. D'autre part, il est remarquable qu'au moment où le mot « temple » est répété dans l'hymne, il lui manque un adjectif qui désignerait le temple comme pur. Tout ce qui reste à dire maintenant, c'est que Dionysos doit venir dans le temple avec les charites. Et grâce à ce danseur excitant, celui qui s'est transformé soi-même en taureau, après être venu d'abord avec un pied de bœuf, le dieu de l'humide, il n'y a plus aucune place pour la pureté rituelle et d'autant moins pour la chasteté sexuelle. Qui donc aurait pu chanter un tel hymne? Ce n'était guère le petit groupe solennel des femmes les plus vieilles de l'Élide et pas non plus les vierges. Le témoignage de Plutarque semble plutôt confirmer que dans la région de l'Élide aussi, comme ailleurs, c'étaient les femmes mariées, fécondes, et donc possédant une connaissance approfondie de la jouissance sexuelle, qui, par leur dévotion, privilégiaient Dionysos au plus haut degré parmi toutes les divinités masculines des Grecs. Est-ce un miracle ? Merci.